Vous êtes prêts? On y va. Alors, en utilisant la fusée de la grâce, qui satellisera le chrétien utile. Hein? Vous voulez être utile? Eh bien, il faut prendre la fusée de la grâce. Alors, c'est le message de ce matin. Comment prendre la fusée de la grâce? Alors, on connaît la fusée de transport spatial, mais on va rentrer dans la fusée de la grâce. Alors, il faut quand même que j'explique un petit peu comment marche une fusée, parce que tout le monde n'est pas forcément spationaute. Alors, le principe naturel. Alors, je vais vous expliquer comment marche ce véhicule, pour que vous puissiez rentrer dedans. Vous voulez le prendre aujourd'hui? Voilà, alors donc on va voir un peu comment il marche, parce que sinon vous avez peur de rentrer dedans. Alors on va d'abord voir le véhicule naturel, parce que le véhicule spirituel marche de la même façon, on appelle ça une analogie. Alors rassurez-vous, toutes les analogies, il ne faut pas tout prendre à la lettre. C'est comme Jésus, il prenait des paraboles, et il y a des chrétiens qui veulent tout prendre à la lettre. Non, la parabole c'est juste pour expliquer un principe, mais ça ne veut pas tout expliquer. Okay. Le spirituel, c'est quelque chose à part, enfin quelque chose de spécifique. On peut le comprendre d'une certaine manière par analogie. Donc ce matin, il y a des choses que vous allez comprendre, enfin je l'espère en tout cas. En tout cas, moi je l'ai compris pendant que je préparais le message. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'étais ingénieur aéronautique, donc là je parle un peu de mon expérience et j'essaye de vous faire partager comment fonctionne un véhicule spatial. Alors, si on prend une pierre et qu'on la lâche, bon, ce n'est pas une pierre, mais un objet, qu'on la lâche, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe où? À la verticale? Ok, sur le sol. Si je prends cet objet et que je le lance, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, encore une fois. Et comment il tombe? Il a une trajectoire qui est courbe, d'accord? Qui est courbe, et le point de chute est plus ou moins éloigné suivant que je le jette plus ou moins fort. Alors si je pouvais jeter cet objet à une vitesse suffisamment forte, on essaye ça pendant les vacances, on joue ça près de la mer et tout ça, suffisamment forte, je pourrais le satelliser, d'accord? Et c'est quand on le lance suffisamment fort qu'il se satellise, qu'on a un satellite. Ok? Alors, à votre avis, à quelle vitesse je dois lancer ça pour qu'il se satellise? Si je voulais satelliser ça, d'accord, sur la Terre, à quelle vitesse je dois le faire? Qu'il ne retombe jamais, oui. Qu'il satellise, oui. La satellisation, c'est quand il ne retombe jamais. Alors, on ouvre les scores, là. Quelle vitesse? Allô? Je vous ai dit, je vous mets un défi ce matin, de prendre le véhicule. Alors, à quelle vitesse? Allez, en kilomètres par seconde. Je vais vous mettre sur la piste. Combien de kilomètres par seconde? 7,9 kilomètres par seconde. C'est-à-dire que si je voulais être satellisé, ce matin, j'aurais pu ne pas venir au milieu de vous. Si j'étais parti de Saint-Martin à 7,9 kilomètres par seconde, j'aurais été là en 2 secondes. Mais en fait, j'aurais été satellisé. Donc 2 secondes pour venir de Saint-Martin ici, ça vous donne une idée. Voilà, la vitesse de satellisation. Alors, cela n'est pas possible près du sol, car de telle vitesse, l'atmosphère freinerait l'objet. Donc, on a une difficulté. S'il n'y avait pas d'atmosphère, on pourrait le faire assez facilement. Mais il y a un frein qui est l'atmosphère qui freine. Ok? Donc, il y a quelque chose à vaincre. Alors, quel est le principe spirituel qui va avec ça pour le véhicule de transport spirituel? Là, on va voir, c'est les mêmes principes qui agissent. Si vous lancez un chrétien sans vitesse initiale, il retomberait sur la terre. Ok? Vous êtes d'accord? Ah oui, un chrétien sans vitesse, hop, il tombe. Voilà, ok. Vous voulez être ce chrétien-là? Vous voulez prendre le VTS? Alors, on va voir comment il fonctionne. Alors, plus la vitesse est grande, moins il sera courbé et plus il ira loin. Ok? Donc plus le chrétien il sera lancé, plus il ira loin. Ok? Vous voyez l'idée? Alors, plus, pour une vitesse suffisamment élevée, il n'y aura plus de point de chute. Et il sera lancé sur un parcours circulaire. Il sera satellisé par la grâce qui le portera vers le ciel, vers Jésus. Est-ce que vous voulez être satellisé ce matin? Ok? On y va? Alors, il faut prendre le VTS. Alors, bien sûr, c'est pas possible. Alors, je vous déçois. Hein. Parce que, trop près de la Terre, il y aura un échauffement trop fort à cause des efforts qu'il faudra y déployer. Donc, je vous dis tout de suite, vous n'y arriverez pas. Non? Non, parce que le corps que j'ai lancé tout à l'heure, naturel, on n'y arrive pas. Pourquoi? À cause de l'atmosphère. Et vous non plus, vous ne pouvez pas y arriver si vous ne rentrez pas dans le VTS. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Grâce au VTS de la grâce. Amen. On va voir comment il fonctionne. Alors déjà, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le VTS de la grâce? Alors, le premier moyen, c'est la fusée. Alors, j'ai demandé aux jeunes, puisqu'ils sont en session, quels sont ceux, allez, très vite, Tom, qui me dessinent une fusée qui permet de lancer un satellite. Alors, allez-y, celui qui veut me dessiner une fusée, telle qu'il la voit. Allez, Charles, dessine-moi la fusée que tu vois pour satelliser un satellite. Alors, je vous dis tout de suite, moi, j'étais celui qui fabriquait les satellites. Il y en a qui pèsent 5 tonnes. Hein. Alors, là, j'avais quelque chose de quelques grammes, mais lancer 5 tonnes à 7,9 km par seconde, hein, il faut de l'énergie, ok? Donc, il faut une fusée. Alors, est-ce que vous voulez être une charge utile, un chrétien utile? Eh bien, il faut avoir de l'énergie pour partir. Et donc, il faut une fusée. Donc, il dessine une fusée. Voilà. Alors, juste un autre chrétien, un autre jeune, là, qui veut se mettre à côté. Il y en a qui connaissent les Tintins? Voilà, la fusée. Tom, tu veux me la dessiner? Alors, bien. Concours de dessin. On y va. Alors, je vais vous poser une question maintenant. J'attends qu'il dessine sa fusée. Voilà. Faire un concours de fusée, de dessin de fusée. Voilà. Il réfléchit, hein. Qu'est-ce qu'il est en train de dessiner là? Des carreaux. Ah oui, les carreaux de Tintin. Ah oui, les carreaux rouges et blancs. Alors, sur la droite, vous allez entrevoir la fusée de Tintin. Et sur la gauche, c'est un peu plus élaboré. Hein. Qu'est-ce qu'il a dessiné, Charles? Hein? Il a dessiné Ariane 5. Hein. Il a dessiné Ariane 5. C'est les boosters. Alors ça, c'est la fusée d'Ariane, de la fusée de Tintin. La fusée d'Ariane 5. Quelle est la fusée? Est-ce que toutes les deux fusées vont pouvoir lancer un satellite? Hello? Non? Pourquoi Florence te dit non? Ah, bon, admettons que les hommes soient des satellites. Est-ce que les deux fusées peuvent envoyer une charge utile? Restons sur la charge utile. Hello? Oui? Quels sont ceux qui disent oui? Levez la main. C'est les deux fusées là, hein, peuvent lancer des charges utiles? Oui. Celle de droite? Ah, celle de droite. D'accord. Quels sont ceux qui pensent que les deux ne pourront pas? Il y en a... Levez la main. Quelques-uns. Alors bon, je ne vais pas tous vous demander les raisons, mais c'est vrai que les avis sont partagés. Alors, réponse. Celle-là, fusée Tintin, pourra jamais emporter de charge utile. C'est un rêve, c'est bien, mais ça ne pourra pas. Il n'y a que celle de gauche. Alors pourquoi? On va le voir. Alors, je vous dessine la fusée. Bon, c'est pas la dernière, parce qu'elle est plus facile à comprendre dans sa constitution, Ariane 4, qui a précédé Ariane 5. Vous voyez, cette fusée-là, c'est pas la fusée de Tintin. Okay? Pourquoi? Parce que fusée de Tintin, c'est vue de l'esprit. C'est un petit dessin, et ça, c'est quelque chose qui marche, enfin, qui a marché. Ok? Alors, pourquoi ça peut transporter ce qu'on appelle une charge utile. Parce que la charge utile, c'est celle qui est là-haut, hein, puisque c'est que uniquement celle qui sert, hein, tout le reste, ça ne sert pas. Attendez, je vais... Est-ce qu'il y a des réponses là-dessus? Voilà, tu vois, il n'y a que ça là-haut qui va servir, parce que le satellite, il est là-haut. Okay? Donc, il n'y a que ça qui sert. Tout le reste, ça va être perdu. Des milliards à la poubelle. Hein? Parce que ça coûte cher. Hein? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour s'amuser? Non. Eh bien, parce qu'il y a des étages. Hein? Premier étage, deuxième étage, troisième étage, et la charge utile. Ok? Pourquoi est-ce qu'une fusée a des étages? Eh bien, la réponse est simple, c'est des raisons constructives. Pourquoi constructives? Parce que si vous voulez lancer 5 tonnes, ou 10 tonnes, hein, ou 15 tonnes, puisqu'Apollo a lancé 25 tonnes, en l'air, hein, il faut beaucoup d'énergie, et on n'a pas encore trouvé, on ne trouvera certainement jamais, les carburants, les comburants, on appelle ça des ergols, qui peuvent, de seul coup, lancer ça en l'air. Donc, on est obligé de faire des étages pour que, dès qu'on atteint une certaine vitesse, on largue ce qui est trop lourd, ensuite, après, on recommence, on largue le reste, etc. Vous voyez, c'est un principe constructif. C'est impossible de lancer des charges sans qu'il y ait des étages. Pour ça, la fusée de Tintin, elle ne marche pas. Hein, surtout pas aller sur la Lune, alors là, c'est impossible. Mais ça fait rêver. Et c'était le début du rêve. Alors, ce qui est important, c'est les satellites. Okay. Moi, je les ai construits, beaucoup de satellites, pour faire marcher tout ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, on essaie de les alléger, mais ça peut aller jusqu'à 5 à 10 tonnes. Hein. Alors, un satellite, eh bien, c'est une charge utile, et nous, on parle du chrétien utile. Hein. Charge utile. Donc, on va essayer d'entrer dans ce véhicule pour être satellisé. Eh bien, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert aux iPhones, hein, les satellites naturels, le GPS. Mais le chrétien utile, ben, il sert à donner la joie autour de lui. Okay, il sert à quelque chose dans la vie. D'accord? Et c'est ce que nous voulons, hein, être des chrétiens utiles qui apportent la joie. Alors, on va voir la fusée de la grâce qui s'appelle Romain 678. Pourquoi ça s'appelle Romain 678, David? Romains chapitre 6, 7 et 8. Donc je vous emmène dans la fusée de Romains 678. Il y a quelqu'un qui connaît le livre des Romains? Il est un peu barbant, hein? Ben, je vais essayer de vous le rendre un peu plus digeste ce matin avec la fusée de la grâce. Alors la fusée de la grâce, c'est le chrétien. Donc pourquoi est-ce qu'il y a 3 étages dans cette fusée? Hein? Eh bien, ce sont des raisons constructives aussi. Parce que le chrétien ne pourra jamais être satellisé sans la grâce. Voyez-vous? Le chrétien ne peut jamais avoir assez de vitesse pour être utile au Seigneur de manière constante. Il pourrait être utile, mais il va retomber. Donc il va être utile, il va retomber. Ça vous est déjà arrivé? Vous étiez en l'air et puis paf, vous êtes retombé. Mais est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent rester en l'air? Eh bien, venez avec moi, avec le VTS de Romains 678. Ok? Alors, je vais vous l'expliquer comment il marche. Donc, cette fusée, elle est constituée par, un, le péché. Donc, le premier étage, ça sera le péché. Romains 6. Ok? Si vous lisez Romains 6, tout parle du péché. Deuxième étage, c'est la loi. Romains 7, c'est la loi. Et le troisième étage, ce sont les forces hostile qu'il faut vaincre pour décoller. Et enfin, le chrétien utile qui est tout en haut, qui va servir à quelque chose quand il va être satellisé. Alors on va voir maintenant comment cette fusée elle marche, hein, pour que vous ayez envie de rentrer dedans, hein, pour ne pas qu'elle se casse la figure. Donc comment elle marche? Eh bien, elle a une trajectoire. Hein, il faut qu'elle parte de la Terre, il faut qu'elle arrive. C'est quoi la charge utile pour le téléphone et tout ça? À quelle hauteur ça se trouve? Et les avions, ils volent à quelle altitude? 10 km? 10 000? 10 km? Les satellites là, que vous utilisez, là, qui vous envoient les ondes, ils sont à quelle hauteur? 36 000 km. 36 000 km. Pourquoi? Parce que 36 000 km, c'est le seul endroit, alors c'est quelqu'un qui a trouvé ça, hein, par des calculs spatiaux, le seul endroit où le satellite il tourne en même temps que la Terre. Donc il reste toujours au même point. Vous voyez? Donc il faut monter à 36 000 km. Vous voyez, c'est assez haut, hein? Beaucoup plus loin que les avions. Hein. L'avion, c'est 10, et là, c'est 36 000 km. Donc, pour arriver là-haut, bah, il faut une sacrée énergie. Hein. Il faut une fusée à trois étages. Et donc, je vais vous expliquer comment marche cette fusée, et vous allez voir que le VTS spirituel marche sur les mêmes lois. Hein. Comme ça, vous allez vous en rappeler. Donc, la Terre, il y a ce qu'on appelle la pesanteur. Alors, je sais que mes enfants le savent, parce que je leur ai bassiné ça toute leur jeunesse. F égale m gamma. Donc, la gravité représente quelle valeur? La vitesse à laquelle ça descend, c'est la force d'attraction. Et quelle est la valeur? Ben 9,81 mètres par seconde au carré. Ok? Pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est une valeur qui est un constat. Et il y a une pression. Hein, tous, nous avons une pression atmosphérique. Pression qui nous freine, hein, freine les voitures même, mais freine encore plus d'autres véhicules. Cette pression est à 1013 hectopascal. Okay? Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, c'est sur la Terre, mais à 36 000 km, eh bien, la gravité est zéro et la pression est zéro. Donc quand vous lancez ça et qu'elle arrive là-haut, bah, c'est l'éternité. C'est plus arrêté, c'est plus freiné. C'est ça, dans le vide spatial. Donc, la gravité, la pesanteur est zéro. Et vous avez vu tous les cosmonautes qui se baladent là-haut, qu'ils soient grands, petits, les sandwichs, tout ça, ça vole parce qu'il n'y a plus de poids. Hein, il n'y a que des masses. Quelqu'un qui fait 150 kilos ou l'autre qui fait un maigrichon de 40 kilos, ils volent tous parce qu'il n'y a plus de jet, il n'y a plus de gravité. On n'a plus de pesanteur. D'accord? Et ceci grâce, eh bien, à la fusée, qui, elle, lance une vitesse suffisamment forte pour le satellite. Okay? Donc on va voir comment marche le VTS donc spirituel sur la même base que la fusée naturelle. Mais ceci par la grâce. Donc la Terre, sur la Terre, il y a la pesanteur du péché et de la mort. Okay? Ça, c'est un constat. Toute la Bible en parle, depuis Adam, eh bien, il y a le péché qui est entré dans le monde et la mort. Tous, nous sommes sous cette loi. Okay? Aucun d'entre nous ne peut y échapper. Elle nous amène tous vers le péché et la mort. Ensuite, il y a la pesanteur. Il y a la pression, les oppressions. Il y a trois types d'oppressions. Il y a la chair, notre chair, qui nous pousse parce qu'elle est. Il y a le principe du mal qui est en nous. Il y a le monde. Parce que le monde, ils sont tous sans le Seigneur, donc en fait, ils poussent. Hein, donc les influences, hein, et on est très très influencés, en particulier les jeunes qui n'ont pas encore fait des choix de vie et tout ça, ils sont très influençables, donc il faut bien les protéger, leur donner aussi des capacités de résister. C'est le rôle des parents et de l'Église. Et des pressions spirituelles, toutes les puissances spirituelles dont parle la... l'écriture. Amen. Donc tout ça, c'est sur la Terre. Parce que, eh bien, c'est structurel, c'est constructif, c'est comme ça que la Bible nous le présente. Et dans le ciel, eh bien, G égale 0, P égale 0. Ok? Eh oui. 36 000 km là-haut, pression nulle, c'est-à-dire le péché est zéro, il n'y a plus de péché avec le Seigneur. Okay? Il n'y a plus de mort quand nous sommes avec le Seigneur. Et les pressions, les puissances spirituelles ne peuvent plus. Parce que les puissances sont au deuxième ciel. Mais le Seigneur est au troisième avec tous les anges, les archanges qui nous protègent. Okay? C'est eux. Donc si on va avec le Seigneur dans le ciel, eh bien, on peut, une fois qu'on est satellisé, eh bien, rester autour de cette satellisation. Et ceci par la fusée de Romains 678, qui est le VTS spatial, qui est la vitesse de délivrance. Et il nous faut une vitesse de délivrance. Alors le chrétien initial, il tombe. Ok, donc il faut le ramasser, il faut l'aider. Alors on le lance, Ok, il va un peu plus loin, mais il retombe. D'accord. Ensuite, après, on le lance, il peut aller plus loin. Mais s'il pouvait être satellisé, ce serait super. Alors, si vous pouviez être satellisé, si je pouvais être satellisé, si je rentrais dans le VTS, eh bien, je ne retomberais plus. Je serais avec le Seigneur. Et c'est ça l'objectif du chrétien. C'est ça l'objectif de la Bible. C'est ça l'objectif de l'enseignement spirituel. Okay, de rester avec le Seigneur pendant la terre, hein, je parle. Après, le Seigneur nous enlève, c'est encore une autre aventure. Hein. Je vous parle que de l'aventure que nous sommes amenés à vivre ici-bas avec le Seigneur. Okay. Donc, ça s'appelle des chrétiens stables, ça s'appelle des chrétiens mûrs, ça s'appelle des chrétiens qui ne tombent pas tout le temps, ça s'appelle des chrétiens qui peuvent marcher avec le Seigneur de manière stable et être utiles, être des charges utiles, des chrétiens utiles. Alors, il y en a qui veulent continuer l'aventure, être satellisé avec le Seigneur. Alors je vais vous expliquer comment marche cette fusée. Parce qu'il y a des principes. Je vous ai dit que sans trois étages, c'est impossible, et ce sera impossible, parce que l'oxygène et l'hydrogène, je vous dis, on ne peut pas trouver mieux comme carburant. C'est ce qui est utilisé dans le deuxième étage, et dans le troisième, cryogénique. Donc on ne peut pas trouver mieux. Donc c'est structurel. Donc on ne pourra pas trouver mieux que ce que c'est des indices constructifs. Donc là, on a la fusée à trois étages, et comment elle fonctionne? Donc le fonctionnement dynamique. Alors, il y a une trajectoire qui est prévue par les ordinateurs, hein, qui doivent être suivis rigoureusement, sinon ça foire. Hein, parce qu'il peut rentrer, il peut ressortir, il peut aller sur la Lune. Si on se trompe, une trajectoire du haut là, on se retrouve sur Mars, sur Vénus, et on perd tout, hein, la charge utile. Donc c'est très important de suivre les opérations. Alors première opération, il y a les boosters et le premier étage qui attirent, enfin qui poussent pour tirer de l'attraction terrestre, une force énorme, colossale. Ceux qui sont en Kourou, en Guyane, là, ils disent que chaque fois qu'il y a un lancement, ils sortent et regardent, parce que c'est des projections, parce qu'il faut des milliers de tonnes à arracher du sol. Okay. Donc là, c'est vraiment un gros travail. Okay. Mais une fois qu'on arrive à un certain niveau, quand il n'y a plus de carburant, on lâche tout. Okay. Donc on lâche le premier étage. Il faut le lâcher. Si on ne le lâche pas, la fusée descend. Okay. Donc c'est un principe important de lâcher. Alors maintenant... Maintenant, il y a des privés qui se mettent là-dessus, sur ce créneau-là. Et la première fusée privée a été lancée par un gars privé qui va se faire de l'argent, qui va lancer, je sais pas, tous les mois un truc là-haut. Et il va récupérer le premier étage. Donc on peut le récupérer avec des parachutes et puis on remet des ergols dedans. Ce n'est pas le cas pour le deuxième. Mais il faut le lâcher. Deuxième étage. Ça s'appelle prendre de la vitesse. Et stabiliser, aller sur la satellisation. Là aussi, dès que les ergols sont terminés, on lâche. Alors ils se désintègrent dans l'atmosphère, puisqu'il y a beaucoup de vitesse, donc c'est pas grave, ça ne nous retombe pas dessus. C'est complètement désintégré. Mais il faut le lâcher. Okay. Troisième étage. Et ça dure quelques minutes, hein. Assez vite. Troisième étage, pareil. Il faut lâcher ce qui reste de ce qui a été brûlé et du contenant des ergols. Troisième étage. Et ensuite, après, il ne nous reste plus que la charge utile. Okay. Alors, il y a un tout petit moteur de la charge utile, mais comme on est dans le vide, après c'est très facile, vous faites ça, tac, et ça part à, tout autour de la Terre, juste avec une pichenette, hein, même pas. Et là, on a donc la charge utile, qui est le fameux satellite, aller trop vite, qui lui va partir suivant les missions, 36 000 à 20 000, etc., ce qu'il a besoin de faire. Donc c'est ça l'objectif. Okay. Alors je vous emmène dans le VTS spirituel, marche pareil. C'est Romains 6, 7 et 8. Je vais vous lire quand même quelques extraits de ces passages-là qui sont importants avant de vous montrer comment marche la fusée. Donc, je vous emmène dans Romains 6. Romains 6. Je vais vous lire quelques passages. Alors, je vais lire d'abord le 6, verset 23. 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Alors, comment faire pour se débarrasser de la mort? Eh bien, on va voir. Premier étage. La fusée va partir, ok? Charge initiale, démarrage. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Ensuite, premier largage. C'est le baptême de Jésus. Okay? Le baptême de Jésus, c'est quoi le baptême de Jésus? C'est quoi le baptême de Jésus? Tu résumes en un mot, une phrase. Baptême de Jésus. Pourquoi est-ce que le baptême de Jésus, en Jésus, c'est le premier largage? Parce que vous voyez, là vous êtes parti, vous avez entendu le message, vous avez décollé, vous avez entendu le témoignage, vous êtes un converti, je dirais, à ce niveau-là, et vous avez été touché dans le cœur, et là, il y a l'obéissance, la première obéissance qui marque le premier largage avec le baptême d'eau, baptême d'eau en Jésus-Christ. Voilà, qu'a-t-il a dit? C'est la mort à soi-même. Quand on baptise une personne qui descend dans l'eau, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est l'identification à la mort. C'est l'identification à la mort de Jésus. Okay? Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui qui a porté les péchés. C'est lui qui a été frappé pour nos péchés. Et c'est grâce à ses meurtrissures que nous avons la guérison et que nous avons la vie. Donc, au baptême, nous, on n'a pas besoin de mourir, sinon on n'existerait plus. Jésus l'a fait pour nous. Donc on s'identifie, ok? C'est pas pareil que le baptême de Jean-Baptiste. C'est pour ça que Paul a dû redresser tout ça au début du 1er siècle. Hein. Parce qu'au 1er siècle, il se faisait baptiser par le baptême de Jean-Baptiste, qui représente quoi le baptême de Jean-Baptiste? C'est la purification des péchés, purification, comme l'eau qui lave, purification. Mais le baptême de Jésus, c'est pas la purification. C'est, bien sûr, la purification dans le sens où c'est enlevé, mais c'est l'identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Okay? Et ça, la plupart des chrétiens, ben, s'ils n'ont pas cette expérience, parce que le baptême n'est qu'une symbolique, mais l'expérience, ça veut dire qu'ils ont bien démarré, et hop, premier étage par terre. Ça veut dire quoi? Ça, c'est soit les chrétiens qui ne se sont pas fait baptiser, parce qu'ils n'ont pas compris la signification du baptême, non pas parce qu'ils n'ont peut-être pas voulu, soit parce que dans les églises historiques, eh bien, comme on n'a pas cette réalité de la signification, on reste sur un baptême de purification. Baptisé enfant, ok, et puis plus tard tu deviendras chrétien, on ne sait pas quand, mais bon, comme Tintin, jusqu'à 77 ans, ou peut-être après, hein, vous voyez, on ne sait pas, c'est bon. Donc, vous avez une vitesse, hein, vous ne savez pas trop, hein, ça redescend très vite. Hein. Ok, mais même chez les évangéliques, il y a des gens qui se font baptiser, qui ne savent pas pourquoi. Bon, ici, dans l'Église, on essaye de bien écouter les témoignages pour que ça corresponde à une réalité. Mais bon, c'est le cœur qui est touché. Donc, ce qui est important, c'est que le baptême en Jésus soit réellement, réellement vécu comme tel. C'est-à-dire que je sois conscient que je suis mort, avec Jésus et que je suis ressuscité avec Jésus. Et ça, c'est l'épreuve du premier étage, parce que sinon, ben je tombe avec le premier étage, avec le péché. Le péché, il va revenir. Okay? C'est pas parce que je me suis fait baptiser que je vais pouvoir continuer ma route. Okay? C'est pas le baptême qui sauve. C'est la signification de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Si je suis mort au péché, et vous voyez que c'est quelque chose de dynamique. Hein. Il faut que je reste dans cette signification du baptême de Romains 6, et c'est tout Romains 6 qui en parle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Amen. Alors, on va regarder la deuxième phase, deuxième étage, Romains 7. Alors, je vous emmène dans Romains 7, verset 4. Alors, je vous invite à lire tout Romains, enfin 6, 7 et 8 chez vous, pour que vous puissiez bien intégrer cet enseignement. parce que là, j'ai pas le temps de lire tous ces trois chapitres. Donc, Romains 7, 4. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi, car le corps du Christ, par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Là, c'est pas mort à mes péchés, c'est mort à la loi. C'est un deuxième obstacle qui nous empêche d'être satellisés, si nous ne vivons pas cela de la bonne manière. Alors, au verset 6, on lit aussi, « Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous le régime ancien de la lettre. » Là, on change de régime. Alors, je parle de régime politique, hein, comme l'ancien régime royaliste et le nouveau régime de la République en France. On change de régime. Okay ? Les chrétiens qui ne comprennent pas qu'on change de régime dans la vie chrétienne, eh bien, ils retombent comme le deuxième étage. Ils sont allés un peu plus loin, mais ils tombent. Okay ? Ils sont allés plus loin. Ils ont compris le baptême, mais ils n'ont pas compris le principe de la loi. Et Paul l'explique, il dit, la loi, ça marche comment ? Ben, c'est comme un mariage. Comme un mariage. Vous baptisez, vous mariez sous la loi, donc tu es, par le oui que tu as dit, devant monsieur le maire, puisque c'est celui-là qui est légal. Hein. Dans l'église, tu as été béni, mais devant le maire, tu as pris l'engagement. Donc devant le maire, tu as pris un engagement. Et tu as cet engagement jusqu'à ce qu'il meure. Tant qu'il ne meurt pas, tu es lié par cette loi. Okay ? C'est Paul qui le dit. Lisez Romains 7.1. Et la seule manière dont elle peut être délivrée de la loi, c'est qu'il meure. Voilà. Je ne le souhaite pas. Ça, c'est l'enseignement de Paul. Romains 7, 1. Okay. Pour expliquer quoi ? Pour expliquer que le premier régime qui a été établi par qui ? Moïse. Moïse, premier régime. Régime de la loi. Il est monté sur le Sinaï. Okay. Et sur le Sinaï, il a reçu les tables de la loi. Okay. Et ces tables de la loi ont engagé dans une alliance Dieu et son peuple. Okay. Et tant que cette loi, tant que cette alliance n'est pas brisée, rappelez-vous Narnia, les tables de pierre qui est brisée avec le lion, tant que cette loi n'est pas brisée, on est engagé. C'est pour ça que les Juifs ont eu tellement, tellement, tellement de mal à accepter l'enseignement de Jésus. C'est pas parce qu'ils étaient, mauvais, c'est parce qu'ils étaient bouchés. Sauf ceux qui avaient l'esprit. Comme celui qui a baptisé Jésus, celui qui attendait le royaume, etc. Mais quand on est religieux, on est bloqué par la loi. Mes amis, ne vous faites aucune illusion. Moi, je vois beaucoup de chrétiens qui sont bloqués par la loi. On va me dire, ouais, attends, c'est pas possible. Si, beaucoup d'évangéliques qui sont bloqués par la loi. Parce que la loi a quelque chose, et Paul l'explique dans Romains 7, quelque chose de... Oui, subtil, je cherche le mot, je ne le trouve pas. Voilà, séduisant. C'est-à-dire que la loi... Comme le disait Tom si bien, ça vous pousse l'orgueil au maximum. Hein? Ah, je suis capable de faire ça. Et en France, on est très poussé à la loi. Hein? Enfin, parce que la loi, c'est la compétitivité. Hein? Tu es bon, tu es le meilleur, tu es le premier de la classe. Okay? On ne regarde pas du tout que peut-être dans la vie, ce n'est pas le premier. Moi, j'ai des premiers de classe qui ont complètement loupé leur vie. Okay? Mais bon, vous voyez, la loi pousse à l'exigence de compétition, une qualité, alors que les anglo-saxons, ils poussent plutôt au travail d'équipe, où on met tout en commun, ce qui est beaucoup mieux. Mais la loi, et Paul, ça, on a beaucoup de mal à le comprendre, et je voudrais que vous le compreniez avec cette fusée, c'est que si vous ne passez pas du régime de la loi au régime de la grâce, vous êtes foutu. Enfin, foutu dans le sens où vous allez tomber sur terre, il faut recommencer, hein, il faut que vous resatellisiez, quoi. Mais il faudrait que vous passiez ce deuxième étage-là. Ce deuxième stade, okay, de la loi. Arrêtez de vous confier dans un mérite quelconque. Arrêtez de chercher à faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Vous n'y arriverez pas. C'est le Seigneur qui va vous donner son esprit pour faire les choses bien. Philippiens 2, 12, 13 dit « Car c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire selon son plaisir. » C'est Dieu. Mais au départ, le verset d'avant dit « Travaillez votre salut. Hello, je dois travailler. Mais je mérite. Non. Travailler, c'est parce que Il faut prendre de la vitesse là, ok? Ok, prendre de la vitesse. Il faut accepter de ne pas vivre sous la loi. Et quand la loi vient, hein, quand tu as commencé à critiquer ton mari ou inversement ton conjoint, bah, tu dis non, c'est la grâce, Seigneur, je l'aime. Et l'amour, amen. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, le régime de la grâce, est celui qui va nous permettre de prendre de la vitesse. Là, dans cette phase-là, on prend de la vitesse. Là, je peux vous dire que ça part. Hein. Vous voyez sur les écrans, moi j'ai regardé beaucoup de trajectoires d'Ariane, là ça prend de la vitesse. Pourquoi ? Parce que on a déjà pris de la hauteur, on a moins de pression atmosphérique, moins de pesanteur, et là on peut prendre de la vitesse. Et là on peut prendre de la vitesse. Quand vous marchez dans la grâce, ne jugez pas, ne critiquez pas, ne cherchez à vivre dans la grâce. Soyez gracieux, soyez compatissants les uns vis-à-vis des autres. C'est le Seigneur qui juge, enfin, c'est pas vous qui jugez. Voyez-vous, la loi est quelque chose qui fait retomber le chrétien au sol, plus ou moins rapidement, mais il va tomber au sol, et c'est malheureusement souvent ce qu'on remarque. Où est-ce qu'il a été signé le contrat du nouveau régime ? Sur quelle montagne ? Golgotha. Regardez à Golgotha. Oubliez le Sinaï. Le Sinaï, c'était pour un temps, pour révéler le péché, révéler que vous êtes incapable de faire la loi, révéler que vous ne pouvez pas y arriver, que vous avez un indus constructif qui vous amène à terre, comme la fusée. Vous avez besoin de larguer le deuxième étage de la loi. Amen. Si vous ne le faites pas, mes chers amis, aussi gentils que vous puissiez être, vous allez retomber. Parce que c'est comme ça. Dieu nous a fait comme ça. On ne peut pas être satellisé si on reste dans un régime de loi, un régime tu dois, tu ne dois pas, tu dois ceci, tu dois cela. Non, non. Ça, c'est là aussi des gens religieux. Et Jésus a eu tellement de mal avec ces gens religieux qui se mettaient en avant. Oui, j'ai fait ceci, cela. Rappelez-vous le fils riche qui est venu vers Jésus et dit, mais Seigneur, j'ai fait tout ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Finalement, j'ai tout fait. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Vends tout ce qu'il y a. Il lui a enseigné la grâce. Il a dit, tu vois, si tu vends tout, tu as quoi ? Tu n'as plus rien. Parce que l'argent, c'est beaucoup de manipulation avec l'argent. Alors, rien. C'est pas qu'il est contre les riches, mais c'est qu'il est contre l'utilisation de la richesse comme moyen de manipulation. Allô ? Vous avez déjà vu ça dans le monde chrétien ? L'utilisation de l'argent comme moyen de manipulation, c'est horrible. C'est la loi. Non, il faut vivre par la grâce, comme Jésus l'a fait. Amen. Et là, vous pouvez aller plus loin et mettre en route le troisième étage. On est prêt pour le troisième étage ? Alors, le troisième étage, c'est le baptême de l'Esprit. Romains 8. Qu'est-ce qu'il nous dit Romains 8 ? Alors, il est tellement extraordinaire qu'il faudrait tout lire. Je lis Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et j'arrive à la conclusion du chapitre 8, qu'il faudrait vraiment lire, relire. Verset 38. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes arrivé à une telle vitesse dans la grâce que rien ne peut vous faire retomber. Formidable ça. On veut tous ça. Eh ben, c'est ce qui est promis. Ce n'est pas du rêve. On est dans la réalité. Romains 8. On peut être satellisé à telle vitesse parce que c'est que la grâce qui peut nous satelliser. Ce n'est pas nous. Nous allons toujours retomber si nous ne comptons pas sur la grâce. Et le baptême de l'Esprit, la marche de l'Esprit, je ne parle pas du parler en langue, c'est un signe. Mais c'est le baptême de l'Esprit. On commence par le baptême d'eau, régime, nouveau régime, et ensuite après le baptême de l'Esprit. C'est par l'Esprit que nous pouvons marcher et que nous pouvons remporter des victoires. Amen. Et là, toutes les forces hostiles, toutes, dites toutes, toutes les forces hostiles, en haut, en bas, partout, toutes les forces hostiles, que ce soit la chair, que ce soit le monde, parce que là-haut, la gravité est zéro, hein, la pression est zéro. Okay. Quand vous êtes avec le Seigneur, vous êtes satellisé, rien ne peut vous faire retomber. Rien. Okay. La preuve, votre iPhone, il marche. Bon, si vous n'êtes pas chez Orange. Hein. Mais s'il marche, c'est parce que le satellite est là-haut. Hein. Sinon, il ne marcherait plus. Okay. C'est une preuve. Bah, spirituellement, c'est pareil. Si vous êtes marché par la grâce, vous ne pouvez pas retomber. Et réfléchissez un instant, pour ceux qui lisent un petit peu les histoires de réveil, les histoires d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu dans la grâce. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Vous voyez ce repos. Quel repos. Quelle sérénité. Pourquoi ? Parce que rien ne les touche. Rien ne les touche. Parce qu'ils sont dans la grâce. Amen. Et rien ne peut les faire retomber parce qu'ils sont dans la grâce. Mais pour ça, il faut prendre plusieurs fois le VTS. Hein, parce que ça ne marche pas du premier coup. Mais on y arrive. Amen. Par la grâce de Dieu. Et ensuite, après, eh bien, on peut monter à n'importe quelle hauteur. Hein. C'est très facile pour aller sur la Lune. Hein. Suffit d'une petite pichenette, parce que vous êtes dans l'espace où il n'y a plus rien qui vous arrête, et vous pouvez être une charge utile, un chrétien utile pour le Seigneur. Amen. Vous voulez toujours être un chrétien utile pour le Seigneur ? Vous voulez prendre le VTS ? Amen. Alors suivez la grâce. Relisez Romains 6, 7 et 8. Romains 6, le péché amène la mort. C'est constructif. On ne peut pas y passer. Et il faut le lâcher. Il faut lâcher le péché. Il faut se débarrasser du péché. Il faut rester dans le baptême qui nous identifie à Jésus. Notre nouvelle identité, notre nouvelle nature. Ensuite, le deuxième étage, pour continuer à prendre de la vitesse, il faut lâcher la loi. Il m'a fait quelque chose ? Seigneur, bénis-le. Pas question. Si vous avez du ressentiment, demandez pardon au Seigneur avant que le soleil se couche. Mais restez pas, ça c'est sous la loi. Si vous voulez que quelqu'un bien vous rembourse quelque chose parce qu'il vous l'a volé, soyez dans la grâce. Alors ? Facile ça ? Facile ça ? Le Seigneur peut vous le rendre. S'il ne vous le rend pas, tant pis. S'il vous le rend, tant mieux. J'ai vu dans des milieux chrétiens des choses pires que dans le monde. C'est pas normal. Mais les gens sont retombés. On ne peut pas être satellisé si on vit dans la loi. On ne peut pas. On ne peut pas. Et heureusement. Sinon, ça veut dire que Dieu, il change. C'est une marionnette. Non, Dieu a fait les choses ainsi que nous avons besoin de vivre dans un nouveau régime de la grâce. Dieu nous fait grâce. Dieu nous a graciés. C'est pour ça que les disciples étaient choqués quand ils ont dit à Jésus. Jésus leur a pris le pardon. Jean-Claude, qu'est-ce qu'il a dit, Pierre, à Jésus ? Il était choqué. Il a dit, il faut pardonner. Ok, d'accord, oui, ok, je pardonne. Il a dit, mais combien de fois ? Ah, il était curieux. Hein. Il voulait savoir si c'était deux fois, trois fois, quatre fois. Attends, Seigneur, c'est dur ça. Ok, pardonner, lâcher. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Ça veut dire quoi ? 77 fois, 7 fois. Dire toujours. Toujours. Parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Toujours. Toujours. Voyez-vous, on ne peut pas faire ça sous la loi. Parce que la loi, elle est codée. Tu as fait ça, j'ai fait ça. Tu as fait ça, j'ai fait ça. Le juge, il est là. Tu as fait ça, ok, apportez-moi les preuves, regardez, machin, etc. Donc, fonction de ça, voilà. Voilà, c'est la loi. Ok ? Il y en a qui veulent vivre sous cette loi. C'est horrible. Dieu l'a donnée que pour nous montrer qu'on n'y arrive pas, okay, qu'on ne peut pas être satellisé. On a besoin de la grâce. Donc il faut rentrer dans le régime de la grâce et dire, Seigneur, ok, je te pardonne. Ce n'est pas toujours facile. Commencez par la volonté, les sentiments vont suivre, mais Dieu va vous donner la grâce de pardonner. C'est qu'un exemple de la loi. Mais il y en a tant, tant d'autres. Si vous voulez être ce chrétien utile qui apportait la joie autour de vous, qui est utile pour le royaume, pour l'avancement du royaume, larguez le troisième étage, qui est celui de toutes les forces qui vous environnent, commencez par la chair, en marchant par l'esprit. Si vous marchez par l'esprit, tout ça, ça va tomber. Ça va tomber, tout seul. Marchez par l'esprit, non pas par la chair. Marchez par la puissance de l'esprit et vous allez monter, monter, monter. Ok ? Et vous allez monter jusqu'à des sommets inimaginables. Et Dieu pourra se servir de vous. Et le Seigneur pourra dire, entre dans la joie de ton maître, tu es bon, fidèle serviteur, parce que tu as accompli ma volonté. Et là, c'est la plus grande joie que vous avez. Vous savez, n'ayez pas une joie de réussir dans le monde. Le Seigneur va vous faire réussir dans le monde, comme il a fait à Daniel. Mais d'abord, vous serez éprouvé. Toujours. Parce qu'il ne peut pas vous faire rentrer comme Joseph à une place prédominante sans qu'il y ait l'orgueil qui vienne sur vous. Donc, il faut que vous ayez compris ce que c'est que l'épreuve pour être utile entre les mains du maître. Parce que il n'y a qu'un seul véhicule qui peut vous y amener, c'est le VTS spirituel de la grâce. Amen.